Bonjour Adeline.
Bonjour Adeline, dis-vous.
Bonjour
on en
à vous
parle
deux.
Ce matin sur les internet et les réseaux sociaux. Et Mila revient sur le devant de la scène.
Oui, cette adolescente connue en 2020 pour avoir reçu une multitude de menaces de mort. Elle avait critiqué l'islam sur les réseaux sociaux. Après ça, elle a dû être déscolarisée pour sa sécurité. Elle avait témoigné dans Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC. C'était le 3 février 2020, écoutez.
Le droit au blasphème. J'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais je tiens quand même à dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser, qui pratiquent leur religion en paix. J'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer. J'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Et voilà.
Ce qui fait reparler d'elle aujourd'hui, c'est son récent tweet où elle demande à Instagram de certifier son compte. Mon compte en a besoin pour des raisons de sécurité et de sûreté qui a encore été rejeté. Je vais bientôt perdre mon compte alors qu'il est symbolique de ma résistance. Tristesse, dit-elle. Ce à quoi Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, lui répond qu'il va échanger avec les équipes d'Instagram pour que sa demande soit acceptée.
Et ça, bien sûr, ça ne passe pas pour les internautes sur Twitter. Enfin, pour certains internautes.
Oui, beaucoup d'incompréhension. Hein. Post-bad muscu dit par exemple secrétaire d'État ou de Mila. Donc là, on va certifier une gamine provocatrice qui balance sans scrupule des saletés sur une religion. Déjà que nos impôts paient sa protection, ça va pas, non ? S'énerve Maldini. Malsiane dit même Mila, elle veut un truc, elle le demande au gouvernement et ils s'exécutent comme des petits toutous. On parle là d'une certif, quand même, une certif d'un réseau social. Ça ne passe définitivement pas. Je cite Stéphane qui dit l'indécence de ce responsable de notre gouvernement est inouï. On rappelle à ces gens qui nous gouvernent que la popularité de Mila est seulement due à son offense envers des millions de nos compatriotes et à son apologie d'Hitler sur sa bio de son compte Twitter. Mila a quand même des internautes...
Je ne suis pas certain qu'elle ait fait l'apologie d'Hitler sur son compte Twitter, soit dit en
tout cas,
passant.
C'est ce qu'il dit, oui, mais elle a quand même des internautes, heureusement, qui la soutiennent. Elle pourra enfin exercer sa liberté d'expression et sa créativité personnelle sans risquer de voir son compte suspendu à cause de raids numérique de masse qui vise à la faire taire, dit Mehdi. Et certains autres sont juste blasés, hein, comme Timothée qui dit « Si le socialisme au XXIe siècle s'est certifié le compte Insta de Mila, d'accord, bah écoutez, je change de siècle. »
On passe à la revue de presse et comment s'y retrouver avec ces mesures annoncées en début de semaine pour freiner le Covid, c'est la une de La Provence.
Oui, le journal fait le point sur ce qui va changer dans notre quotidien entre télétravail, rentrée scolaire, monde du sport et de la culture, avec des jauges et l'interdiction de concerts debout notamment. Les artistes se rebellent, c'est la une de Midi Libre ce matin. Les musiciens crient à l'injustice puisque ces mesures ne concernent pas les meetings politiques. Tenir bon encore, c'est le titre choisi par Nice Matin qui a choisi trois photos pour illustrer sa une. Les tribunes d'un stade quasi vide, un ado qui se fait tester et un homme en télétravail. Le télétravail également en une de la Dépêche du Midi qui y consacre tout un dossier. Et il y a aussi cette annonce du gouvernement, interdiction de consommer debout dans les cafés et restaurants. Il faudra s'asseoir. C'est la une du Canard Enchaîné ce matin qui ironise. Gravissime, Macron déclare l'état de siège.
Toujours bon les unes du Canard c'est Enchaîné. Bon. Et Omicron s'invite en classe à la une du Populaire du Centre.
Dans le Limousin où le taux d'incidence s'envole chez les 6-10 ans, écrit le journal. Et les annonces faites lundi soir sont insuffisantes, estime un professeur émérite d'infectiologie. Le gouvernement a par ailleurs annoncé qu'il envisageait de demander deux tests en cas de contamination dans une classe. Et puisqu'on parle de tests, les grandes surfaces vont pouvoir vendre des autotests Covid à prix cassé. C'est ce que disent les Échos ce matin. Pourvu que le temporaire dure, écrit de son côté l'Opinion, alors que l'autorisation court jusqu'au 31 janvier. Le Quotidien qui rappelle que le secteur de la grande distribution a été d'une grande aide pendant la crise, notamment pour les masques et la production de gel hydroalcoolique. Et on revient aux Échos avec cet autre sujet, la Bourse de Paris qui atteint un nouveau sommet historique. Il s'est envolé de plus de 29% depuis le début de l'année. Ça ne profite pas à tout le monde. Il y a des divergences importantes entre les secteurs plus ou moins infectés par le virus. Et c'est notre question du jour. Philippe, est-ce que ça profite aux riches ? Ça dit quoi en ce moment sur les réseaux ?
Eh bien, pour le moment, ça dit, ça a baissé 94,6%. Vous voyez que c'est précis, hein, disent oui. On était à 96 tout à l'heure. Ça a un petit peu baissé.
Et dans l'actualité,
oui, c'est aussi la mort d'une figure emblématique, celle de Grishka Bogdanov.
Oui, le Parisien écrit sur sa une, je cite, « Non vacciné, il succombe au Covid ». Le célèbre animateur est mort à 72 ans hier à l'hôpital Pompidou à Paris. De son côté, Libé lui rend hommage en écrivant « Étoile filante qui quitte la planète Terre ». Il laisse derrière lui une image de scientifique controversé, indique aussi le Quotidien.
Et du sport avec l'équipe qui sacre ses propres champions.
Oui, dans sa rubrique...
Hier, c'était les Français. Aujourd'hui, c'est mondial.
Aujourd'hui, c'est le monde. Dans sa rubrique champion des champions du monde. Et donc, aujourd'hui, c'est le tennisman Novak Djokovic et la sprinteuse Hélène Thompson qui sont sacrés. Le journal leur consacre plusieurs pages d'interviews et de portraits.
Il y a beaucoup à dire. Djokovic qui espère, à mon avis, secrètement dépasser Federer et Nadal dans l'année qui commence au nombre de victoires en Grand Chelem.
Et il a ses chances.
Ah, bah, il a ses chances, oui. Merci beaucoup, Adeline Divou.
Merci, Adeline.
À tout à l'heure.
Bonjour, Éric Normand.
Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de rédaction à la République des Pyrénées et votre une, culture, sport, économie, les conséquences du tour de vis avec une magnifique photo d'un chef d'orchestre avec son orchestre.
Oui, voilà, c'est l'orchestre de Pau. Bon, j'ai écouté votre vue de presse là et on a fait comme nos voisins de la Dépêche du Midi ou comme la Provence, c'est-à-dire qu'on s'est un peu intéressé localement aux conséquences des annonces du Premier ministre, à savoir pour les secteurs culturels, avec notamment de gros concerts qui étaient prévus dans le coin et qui sont un peu remis en cause en raison des mesures sur les jauges. On s'est intéressé au sport parce qu'il y a pas mal de clubs professionnels par ici, donc pour savoir comment ils allaient appréhender ces nouvelles restrictions.
À commencer par la section paloise.
Ouais, la section paloise. Alors ils ont un peu de bol parce qu'ils jouent dimanche à domicile. Ils reçoivent Brive et il se trouve que les mesures seront pas encore entrées en vigueur puisque ça sera à partir de lundi a priori. Donc, pour ce dernier match de l'année, ils pourront être à plus de 5000 personnes, quoi. Voilà. Mais après, en janvier, évidemment, ça sera plus la même musique.
Alors justement, en haut de votre une, rencontre roi d'un jeu télé, Bruno veut poser son sac à peau.
Oui, c'est une de mes collègues qui a rencontré Bruno Ourcade. Bon, je vous avoue que je le connaissais pas avant. C'est un gars qui a
Ourcade,
pas mal
brillé. Ourcade, c'est un nom légèrement pyrénéen, on va dire ça comme
ouais,
ça.
Totalement. Alors ses parents sont du Béarn. Bon, lui, il a fait sa vie un peu ailleurs. Il était jusqu'à peu francilien. Et il se trouve que c'est le recordman de gains au jeu télévisé Les 12 coups de midi qui est sur TF1.
Avec Bruno Jean-Luc Reichmann, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait, Jean-Luc Reichmann. Et puis Bruno Ourcade, il a perdu son job et bon, il est un peu comme ces Parisiens actuellement qui veulent aller vivre en province. Donc il est venu à Pau et ça lui a plu. C'est la terre de ses parents, donc il nous dit qu'il aimerait bien s'installer ici. Voilà.
Et vous nous parlez du rallye Paris-Dakar, les ambitions de Castera pour le Dakar, c'est on va dire le régional de l'étape.
Ben, c'est le régional de l'étape, c'est aussi le directeur du Dakar, hein, donc c'est un ancien motard, enfin il est toujours motard, mais bon, donc il raconte un peu comment il voit l'épreuve qui débute ce week-end. Bon, ça s'appelle toujours le Dakar, même si c'est plus du tout au Sénégal, oui. Hein, c'est en Arabie Saoudite. Mais
après
bon,
être passé par l'Amérique latine.
Ouais, voilà, après être passé par l'Amérique latine, donc il nous explique un peu comment il voit l'épreuve qui débute, samedi.
Merci beaucoup Éric Normand, chef
Merci
de la
Eric.
Rédaction à la République des Pyrénées.
Merci. Sud Radio, 8h42, restez avec nous dans un instant, c'est le nouvel an des célébrités avec Jacques Pessis et qui reçoit Brigitte Lahaie pour nous parler de ses souvenirs de ses fêtes de fin d'année.
Voix de Sud Radio, Brigitte Lahaie, qu'on retrouve tous les jours de 2h, de 14h à 16h.
Exactement.
Absolument.
Et je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions en podcast sur notre site sudradio.fr. A tout de suite sur Sud Radio, il est 8h42.